France Culture.
On dit qu'on est feignant. Ça m'énerve. Parce que autour de moi, j'ai que des gens qui se la donnent, quoi. J'ai que des gens qui poursuivent des projets, qui sont animés par ce qu'ils font, qui travaillent, qui font des études. C'est pas parce que on conçoit, par exemple, le travail différemment aujourd'hui qu'on est feignant, tu vois. On a l'impression qu'on nous met à part, qu'on est cette génération feignante, contestataire, réfractaire, comme si en fait on venait pas en réaction d'un système imposé quand on est arrivé, quoi. Oui, donc on est né avec ces idées-là, en fait, et je trouve ça un peu antinomique que maintenant on nous les reproche et que faudrait travailler tout le temps plus, leur demander le moins possible, pas prendre de congés, pas prendre de congés maladie, pas prendre de congés maladie enfant.
Les enfants du nouveau millénaire. Épisode 3. Travailler quand même. Les affirmations à l'égard de la génération Z fleurissent. Selon les employeurs, ces jeunes seraient déloyaux, animés par une quête de sens, centrés sur eux-mêmes, insoumis, préoccupés par l'équilibre travail-vie personnelle, prompts à quitter leur poste. Internet regorge d'occurrences sur le sujet et référence des centaines et des centaines d'articles de presse, d'ouvrages, de vidéos, de conseils de cabinet de recrutement sur cette question ô combien épineuse qu'est le travail des jeunes.
Gen Z. Entre sécurité de l'emploi, quête de sens et flexibilité, France Travail 2024. Plus vous donnerez à ces jeunes collaborateurs de la visibilité sur les projets et ambitions de votre organisation et les moyens de s'impliquer à leur niveau, plus ils seront satisfaits et prêts à s'engager durablement. En outre, ils souhaitent travailler au sein d'une entreprise inclusive et responsable, qui favorise la diversité au travail et mène des actions en faveur du développement durable. Enfin, pour recruter et fidéliser les talents de cette génération, vous avez tout intérêt à proposer des conditions et modes de travail flexibles et personnalisés. Expérience collaborateur, possibilité de l'alterner entre travail à distance et travail en présentiel, disposer de bureaux innovants. Vous vous démarquerez avec de tels avantages.
Ne pas perdre sa vie à la gagner. Ce slogan est vieux au moins comme mai 68. Faut-il voir alors dans cette relation au travail un effet d'âge ou un effet de génération? Quelle vision les jeunes ont-ils du travail à l'heure où l'accès à l'emploi relève du parcours du combattant? Leurs aspirations sont-elles si nouvelles? Les jeunes que nous rencontrons ont des situations différentes. Certains sont encore étudiants, d'autres viennent de finir un master, d'autres encore sont en année de césure. Quelques-uns seulement travaillent depuis plusieurs années. On retrouve les filles de la coloc, la bande de Créteil, les jeunes normands, et le premier bébé de l'an 2000, Nicolas.
Au quotidien, en fin de compte...
Nicolas.
Moi, je me lève tous les matins à 6h, entre 6h et 6h30. Je vais au travail et je rentre à la maison, il est 17h30. Donc je suis électricien. Et en fin de compte, après 17h30, ici, on ne fait plus grand-chose. À l'extérieur, s'il fait pas beau. Mais sinon, en règle générale, je fais du sport. Mais hormis le sport, je suis beaucoup sur l'ordinateur. Je cherche à me former sur l'immobilier un peu tous les jours. Et c'est l'heure de manger après, donc je mange. Après, je regarde une petite série sur Netflix ou alors je continue à me former sur YouTube en regardant encore des vidéos d'immobilier. Et après, c'est l'heure de dormir et c'est ça... au quotidien, toute la semaine et le week-end, c'est plus pour voir mes amis et la famille et faire un peu de jardin, de prendre soin de la maison un peu aussi également.
En ce moment, je travaille en restauration, ça fait un an.
Loua.
Je travaille dans beaucoup de lieux différents, pas seulement dans cette année-là, j'ai déjà travaillé en restauration auparavant, mais c'était plus des saisons, c'était pour me faire des sous. Là, c'est vraiment mon emploi à temps plein, donc actuellement, je suis serveuse barmaid. Sinon, moi, j'ai une licence de musicologie, donc moi, je fais de la musique et c'est vraiment ma passion dans la vie. Là, actuellement, je consacre beaucoup de temps à mon travail et je cherche un master pour l'année prochaine, j'aimerais bien reprendre mes études. J'ai aussi utilisé cette année comme une sorte d'année sabbatique où j'avais besoin de dézoomer un peu sur ma scolarité et de de choisir quelque chose qui me plaît vraiment et pas quelque chose que je fais parce que c'est la continuité de mes études et que bah, c'est comme ça et tout le monde fait ça. Je pense que c'est le meilleur travail alimentaire que j'aurais pu trouver, c'est celui qui me convient le mieux parce que je suis quelqu'un qui est très sociable et qui aime beaucoup le sens du service et qui aime faire plaisir aux gens. Et... Mais en vrai, dans son ensemble, je trouve que c'est quand même un milieu assez chouette. Ça apprend vraiment à travailler, à la fois en équipe, à la fois seul. Ça apprend aussi à développer son sens de la vente aussi. Enfin, je pensais pas que j'aurais pu être une aussi bonne vendeuse. Et puis, ça en apprend aussi sur soi-même, ça fait grandir, c'est bien de travailler. Pas trop.
Moi, je suis en contrat donc, de freelance avec une association.
Andrea.
Qui s'appelle Réinventer la nuit. Du coup, je leur fais des factures. Enfin, j'ai commencé il y a 2 semaines, donc là, j'aurais fait aucune facture encore. Mais c'est sur facturation. Et je suis payée 600 euros pour 14 heures par semaine. Ça, c'est pour le contrat donc, avec elle, avec l'asso. Et après, les DJ sets, c'est un peu bancal parce que j'ai facturé sur micro-entreprise pendant super longtemps. Là, j'ai dû genre fermer ma micro-entreprise parce qu'en fait, je l'avais pas du tout créée pour ça et j'étais pas hyper réglo. Et j'avais trop peur que l'URSSAF me tombe dessus. Et du coup, j'ai dit genre non, je ferme cette entreprise. Et du coup, là, je suis en train de recréer une entreprise, mais je suis en train de me heurter à la réalité que je peux pas facturer la freelance et les DJ sets sous la même entreprise, donc faudrait que j'ai 2 entreprises, mais en fait je vais me faire taxer de ouf, donc je vais genre pas gagner beaucoup d'argent. Donc là, en vrai, c'est un peu le vide administratif, donc je continue à mixer et à prendre des DJ sets. En fait, moi j'ai un peu eu de la chance, c'est que ça a vachement bien marché en un an. Vraiment, je me suis mise à mixer dans plein d'endroits, alors que vraiment il y a un an, je faisais pas du tout ça. Enfin, j'avais genre un DJ set par mois, voire tous les 2 mois. Et d'un coup, je me suis mis à mixer vraiment genre tous les week-ends depuis genre janvier à peu près. Et à voyager, enfin, c'est ouf. En vrai, je suis trop reconnaissante, c'est trop bien. C'est vraiment le métier que je veux faire. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me plaît vraiment beaucoup comme activité.
Bah, je suis coiffeuse. J'ai 2 enfants. Je fais du 9h-19h du mardi au samedi.
Maëva.
Donc je jongle entre l'école, la garderie, le centre aéré et les tontons, les tatas, enfin tout mon entourage qui peuvent me les garder le temps que je finisse le boulot. Après c'est un peu dur quand même, surtout qu'ils ont 15 mois d'écart le matin pour les préparer avant d'aller au boulot, tout ça. Mais ça se fait.
Et qu'est-ce qu'il fait ton conjoint dans la vie ?
Il travaille à la centrale nucléaire. Et ses horaires, ils varient souvent. Donc c'est soit il est dans la logistique, ou soit dans cariste. Enfin, il est vraiment un peu dans tout, il est polyvalent.
Là, actuellement, je suis au chômage. Donc j'espère que France Travail ne m'écoute pas, mais je profite vraiment de ma période de chômage.
Elisa.
J'ai fait 1 an dans une librairie d'occasion. Puis là, suite à une rupture conventionnelle, je suis au chômage et je profite de mon temps libre, donc je fais vraiment des activités liées à mes passe-temps ordinaires, donc lecture, voir mes proches, être en terrasse, aller au cinéma, faire de la photo, aller en concert beaucoup. Voilà, c'est un peu ce que je fais de ma vie. Là, j'ai quand même de la chance d'avoir tout ce temps libre, entrecoupé de petits rendez-vous France Travail et des ateliers pour scanner le marché de l'emploi, comme ils disent. À la base, vraiment, mon idée, c'était de travailler dans le monde du livre, librairie indépendante surtout, militante, parce que bah, j'aime beaucoup lire et je pense que c'est vraiment des espaces très précieux, surtout à Paris. Après, je me pose aussi la question de potentiellement reprendre une 2e année de master en industrie, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais industrie créative et musicale, parce que j'ai toujours eu ce petit truc au coin de ma tête de me dire, est-ce que je ferais pas dans la programmation culturelle ? La musique, ça a toujours été une passion pour moi en tant qu'auditrice, mais je l'avais jamais vraiment pensé en tant que métier potentiel. J'ai fait un master en études sur le genre qui était incroyable à Paris 8, très militant, où j'ai appris énormément de choses, et je regrette pas du tout de l'avoir fait, mais il y a très peu de débouchés. Je le savais, hein, mais voilà, forcément, on le fait pour le plaisir, et une fois que c'est fini, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ce master de recherche alors que je veux pas faire de la recherche ?
Gilles, 24 ans, Archivina, France 3, 1983.
Bon, ben, j'ai fait plusieurs patrons, j'ai fait les boîtes intérim, ils n'ont rien, alors rien du tout. Et ici, à la NPE, qu'est-ce qu'ils t'ont
proposé? Là, ils m'avaient proposé une place chez Manizit. Et on a téléphoné du 9 au 19. Le gars a toujours resté sur répondeur automatique.
Et comment ça se fait qu'à NPE, ils ont des places et puis...
Là, monsieur, le chef de l'agence nationale locale, il l'avait recontacté. Il lui a jamais redonné de nouvelles non plus. Ici, ils ont fait tout leur possible pour l'avoir. Ils n'ont rien eu.
Est-ce que tu es prêt à accepter un travail qui ne corresponde pas à ta qualification?
En attendant, oui. En attendant, j'accepterai n'importe quoi.
Alors, les conditions dans lesquelles les jeunes s'insèrent aujourd'hui sur le marché du travail sont des conditions qui, du point de vue d'un certain nombre d'indicateurs, peuvent être qualifiées de précaires, en tout cas de plus précaires qu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, puisque si on s'intéresse, par exemple, à la proportion de jeunes de moins de 25 ans qui exercent leur emploi dans une forme précaire d'emploi, donc un contrat à durée déterminée, un contrat d'intérim, un stage ou un emploi aidé, on passe d'à peu près 15% au début des années 1980 à plus de 50% aujourd'hui.
Camille Penny, sociologue.
C'est au début des années 1980 qu'on voit apparaître le chômage des jeunes comme étant un chômage structurellement élevé et structurellement plus élevé que les taux de chômage qu'on observe parmi le reste de la population, parmi les autres classes d'âge. Et bon an mal an, depuis le début des années 1980, le taux de chômage des jeunes actifs est 2 à 2,5 fois plus élevé que celui qu'on observe pour les autres classes d'âge. Le droit du travail a été en partie assoupli ou détricoté. La réforme des retraites ou les réformes successives des retraites, les reports successifs de l'âge de départ à la retraite viennent évidemment avoir des conséquences très importantes sur les carrières des jeunes. Les réformes successives de l'assurance chômage viennent évidemment peser sur le niveau de vie des jeunes qui connaîtront des périodes de chômage. Donc c'est presque un truisme que de dire que toutes ces transformations du droit du travail qui ne vont tout de même pas dans le sens d'une plus grande protection des salariés, qui vont plutôt dans le sens d'une dégradation des conditions d'emploi, de protection, d'indemnisation, elles ont bien sûr des effets dont on va mesurer bientôt l'ampleur sur des cohortes, sur des classes d'âge qui vont faire toute leur carrière professionnelle dans cet état du monde et qui n'auront pas eu le temps de commencer une carrière professionnelle dans un état du monde du travail davantage protégé.
Le travail, il y a deux connotations pour moi. Donc il y a une connotation un peu fantasmée, celui qu'on a tous. C'est faire un travail qu'on aime, s'épanouir.
Agathe.
C'est ce que je me souhaite, je pense avoir trouvé ma voie. Mais il y a aussi une connotation un peu moins fantasmée, un peu moins édulcorée, du travail comme quelque chose de subi. On voit souvent, je trouve, autour de nous, des gens qui subissent leur travail et qui n'ont qu'une hâte, en fait, c'est d'arrêter de travailler, d'être à la retraite. Donc la vision du travail, pour moi, elle est un peu à double tranchant. Il y a ce qu'on espère atteindre tous et ce à quoi on se résigne. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se résignent, en fait, à ne pas aimer leur travail et à travailler toute leur vie pour quelque chose qui ne leur plaît pas. Alors, en ce moment, je ne fais rien. Parce que donc, j'ai été diplômée en septembre. Le master, il s'est étendu de septembre à septembre. Et ma rentrée est en janvier. Parce que donc, les études de notariat, pour être notaire, c'est bac plus 7. On fait la licence de droit, un master 2 en droit notarial. Là, on est déjà à bac plus 5. Et après, on fait le diplôme d'études supérieures en notariat, le DESN, qui est de 2 ans. Donc là, on est en alternance chez un notaire toute la semaine. Et une fois par semaine, on va en cours, continuer notre formation théorique. Donc ça dure 2 ans. Et à la fin, on présente un mémoire et on est diplômé notaire. Donc là, ma rentrée en DESN se fera en janvier. Et entre-temps, je ne fais rien, j'allais chercher pas mal de travail, donc clairement des jobs alimentaires. Hein. Mais j'ai passé plein d'entretiens et à chaque fois, ils me refusaient pour des raisons de CV en fait. Ils se disaient, vous avez un trop gros CV pour qu'on vous embauche. Et en fait, c'est revenu plein de fois, des gens que j'avais au téléphone qui étaient en mode, vous allez pas vous épanouir quoi. Et je leur disais, mais c'est juste pour 2 mois, laissez-moi travailler s'il vous plaît. Donc après en avoir parlé avec ma famille, mon copain, on s'est dit que là ça avait été 5 ans assez intense, que les 2 ans à venir allaient être intenses aussi parce que ben Il faut gérer sa carrière au travail, il faut gérer les cours, la présence en cours, trouver des moments pour travailler tes cours à la maison alors que tu travailles à côté. Ils m'ont dit, écoute, repose-toi pendant 3 mois, c'est pas grave. Et tu commences janvier, reposé sur de bonnes bases, t'as pas grillé toutes tes neurones, quoi. J'aime pas me sentir inutile, donc au début c'était très dur. Et puis au final, là, depuis 10 jours, je l'accepte. J'accepte de ne rien faire. Je ne fais vraiment rien. Je fais des coloriages, je lis des livres, je vais marcher, je vais nager, je regarde des séries, ce qui m'est pas arrivé depuis super longtemps. Donc je cuisine, je fais vraiment rien. Ouais, bah je me dis, dans une vie, en fait, il n'y a pas vraiment de moment où on fait rien. Quand je regarde mon entourage qui travaille depuis longtemps, il n'y a pas de période d'inactivité qui existe. Donc je me dis, en fait, c'est peut-être une chance d'avoir 3 mois d'inactivité. Et je regarderai ça dans 10 ans, je me dirai, ils étaient pas mal ces 3 mois quand même.
Les projections de la Banque de France indiquent une hausse du chômage en 2025. À l'OFCE, les estimations sont similaires. L'économie pourrait détruire environ 150 000 emplois. Un rythme qui s'accélère après 2 trimestres déjà marqués par une perte annuelle de 100 000 emplois.
Bah, le travail, je dirais que c'est un endroit où on arrive à 8h, on part à 18h, quoi.
Ilyes.
Et où on a une tâche attribuée, où on sait quand on arrive ce qu'on fait. On n'est pas tout le temps dans l'expectative d'attendre, où on n'est pas à courir après quelqu'un pour qu'il nous donne des tâches. Et à la fin, on doit satisfaire quelqu'un, ou du moins satisfaire des attentes qu'on place en quelqu'un, du coup, bah, en moi, en l'occurrence, si j'ai un travail, par exemple. Mais voilà. C'est pas forcément quelque chose de contraignant ni de mauvais, le travail. Ça dépend dans quelles conditions, ça dépend surtout comment on est accueilli. Pour tous les corps de métier, aujourd'hui, c'est difficile pour un jeune qui a mon âge de se projeter à l'avenir. C'est dur parce qu'on sait pas trop où on va. On a l'impression que tous les métiers un peu classiques, on veut faire un métier qui existait il y a 30 ans, j'ai l'impression que dans 5 ans, ce même métier-là sera plus le même. Sera radicalement plus le même dans l'usage. Et puis surtout à destination d'une société qui, elle aussi, aura radicalement changé dans les prochaines années.
Alors, je vais vous expliquer un peu ma théorie de vie. Je pense que tout être humain...
Sarah.
...a un objectif, c'est le bonheur. Voilà. Donc après, la question, c'est comment arriver à ce bonheur-là. Il y a plusieurs stratégies, et le travail en fait partie. C'est-à-dire que le travail va t'apporter de l'argent. Cet argent va pouvoir potentiellement te permettre de financer des bourristos, des voyages, etc. Ça va créer des souvenirs, ces souvenirs vont créer ton bonheur, quoi. Donc je pense que le travail peut t'aider à atteindre le bonheur. Ce qui fait que le travail peut être une bonne stratégie. Par contre, le problème, c'est que si tu travailles mais que t'es pas épanoui dans ton travail, bah en fait, ça te sert à rien du tout de travailler. Genre. Autant ne pas travailler. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas.
Il faut vraiment que je recrute un jeune. Avec cette politique de diversité. Puis en plus, ici, personne s'est changé un Word en PDF. Hein.
Monsieur Dupont, s'il vous plaît.
Ah non, trop strict, ça.
Lucas, à toi, bro.
Too much, too much. Bonjour.
Bonjour. Ah, vous imprimez encore les CV?
Oui, mais c'est du papier vegan.
Parlez-moi de vous, Lucas.
Alors, j'ai 23 ans, je suis Capricorne et je viens d'obtenir mon master en marketing, spécialité CRM, SEO, SEA.
Y a pas une appli français Gen Z? Pourquoi avoir postulé à ce poste et à notre entreprise en particulier?
C'est vous qui m'avez appelé, j'ai pas postulé.
Gna gna gna, monsieur, j'ai réponse à tout. Avec ta capuche là, fagoté comme un as de pique. Ça a l'air doux, ceci dit. Me demande si c'est lavé avec Myrlène.
Mais dites-moi, pourquoi il y a un trou sur votre CV?
J'ai une vision assez rupturiste de la carrière, en fait.
Pourquoi on veut l'embaucher, lui, déjà? Ah oui, bilingue, Instagram, Twitch, ChatGPT et plus de 100 000 abonnés sur le TikTok. Qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans votre précédent poste?
Et la lenteur des prises de décision. Mais j'avoue, le pire, c'était l'illusion de la corbeille de fruits pour éviter de nous donner des augmentations.
On a beaucoup parlé de la forme de happening qu'ont fait des diplômés d'AgroParisTech il y a quelques années au moment de leur remise des diplômes, où ils avaient très fortement affirmé leur volonté de refuser de travailler pour des employeurs ou pour des entreprises qui auraient ou dont l'activité aurait un effet délétère sur la planète ou sur l'environnement. Ce qui est certain, c'est que cette quête de sens particulière ou cette quête éthique particulière est beaucoup plus présente auprès de la frange assez réduite des diplômés et particulièrement des diplômés des grandes écoles qui ont un titre scolaire qui a beaucoup de valeur et qui leur permet de poser des exigences. Alors, ce discours, par ailleurs, il est très présent depuis des années dans le monde des ressources humaines, dans la littérature que produit le monde professionnel, des managers où on décrit des jeunes qui seraient infidèles aux institutions, qui seraient nomades, qui seraient beaucoup plus exigeants. Alors, là encore, c'est très compliqué d'avoir des données statistiques rigoureuses qui permettent de vérifier cette hypothèse. On avait posé avec une collègue dans une enquête il y a quelques mois une question qui valait ce qu'elle valait, c'est-à-dire pas grand-chose peut-être prise isolément, mais qui quand même donnait un indicateur. On demandait dans un scénario fictif aux jeunes de choisir entre un emploi en CDI, c'est-à-dire stable, dont le contenu pouvait être jugé moyennement intéressant, et un emploi en CDD, donc instable, précaire, mais dont le contenu était perçu comme étant particulièrement intéressant. À cette question posée à un échantillon représentatif des jeunes de moins de 25 ans, plus de 70% d'entre eux répondaient qu'ils choisiraient l'emploi stable, fût-il un peu moins intéressant que l'autre.
En général, j'observe que plus ça va, plus on est une génération qui a horreur de la routine et de toujours faire les mêmes choses. On a besoin de changements régulièrement.
Audric.
Et moi, je sais que je suis un peu perdu parce que j'ai envie d'un CDI, par exemple. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être bloqué à un endroit. Parce que dans mon métier, je sais qu'il faut beaucoup se remettre en question. Il faut énormément voir de choses pour s'accomplir professionnellement. Et en fait, j'ai pas envie de rester bloqué à un endroit. Je suis éducateur en foyer avec des enfants placés. Donc en même temps, j'ai envie d'être en CDI pour la sécurité financière et tout ça. Et en même temps, j'ai envie d'aller un peu partout, découvrir d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres domaines. Et du coup, des fois, on se sent un peu bloqué. J'ai l'impression qu'il y a soit l'option, tu restes en CDD tout le temps et du coup, t'es toujours dans le flou, soit t'es en CDI et juste tu restes au même endroit et du coup, t'as l'impression d'être un peu bridé, enfin, d'être un peu bloqué dans ton truc. Donc.
Avant, je travaillais en librairie d'occasion. C'est le premier emploi que j'ai eu. Sinon, j'ai fait vraiment une ligne droite d'études.
Elisa.
Et ensuite, mon premier et seul emploi que j'ai eu pour l'instant, c'était en librairie d'occasion, mais dans une chaîne. Donc, c'était un CDI. J'étais payée au SMIC pour, un métier qui était peut-être 5 métiers à la fois. Il fallait vendre, aussi racheter, mettre en rayon tout. Enfin, il fallait tout gérer dans la boutique, fermer la boutique en autonomie, l'ouvrir en autonomie, enfin voilà. Donc clairement sous-payé pour ce qu'on faisait. Je devais déménager cette même année parce que j'étais en résidence étudiante et du coup, comme j'allais ne plus être étudiante, je devais trouver un autre logement et je devais trouver un emploi parce que j'allais ne plus être boursière car plus étudiante. J'ai juste postulé en me disant des chaînes de librairies d'occasion... ça peut se trouver assez facilement. J'ai postulé, c'était le premier ou deuxième truc auquel je postulais. Et ils m'ont pris directement. Donc j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Ah, mais est-ce que j'aurais préféré un CDD, un CDI ? J'étais juste soulagée de me dire qu'en septembre, j'aurais de quoi vivre. Je me suis vite sentie enfermée dans le fait d'être en CDI, alors que pourtant, pour beaucoup de gens, et je le comprends, c'est signe de stabilité, parce qu'on est rassuré de se dire qu'on n'a pas besoin de trouver quelque chose encore dans 3 mois. Mais me sentir coincée sans pouvoir démissionner, parce que pareil, j'aurais pas eu l'argent nécessaire pour le faire, c'était assez stressant. Pour moi, je donne aucun sens au travail, en tout cas tel qu'on le conçoit dans notre société actuelle. C'est vraiment un peu la seule ombre, enfin pas la seule, j'abuse, mais en tout cas le gros point noir de la vie d'adulte pour moi, parce que je me retrouve pas du tout dans des valeurs d'exploitation salariale, de contraintes. Ouais, j'arrive pas à donner de sens à la valeur travail.
Ne rêvez pas, pointez, grattez, vaquez, marnez, bossez. Trimé. Ne rêvez pas. L'électronique rêvera pour vous. Ne faites pas l'amour. L'électrocoïtal le fera pour vous. L'ordinateur, Jacques Prévert, 1969.
Entrez.
Merci.
Merci. Pas de soucis.
Je peux vous donner les chaussures, si vous voulez. Ouais, c'est vrai.
Oh, ouais. De toute façon, okay. Le ménage, c'est pas à faire. Bon, ben voilà, Brest, quoi.
Et donc, on est ici chez toi, c'est bien ça?
C'est ça, ouais, là, c'est chez moi. Et donc, du coup, c'est une maison que j'ai achetée l'année dernière, en juillet dernier, que j'ai rénovée avec mon père pendant presque 10 mois. Et voilà le résultat, quoi.
C'est beau?
Ouais, c'est pas mal.
Avant,
Avant, ici, on rentrait, il y avait un couloir. Ici, petit couloir, là, ici. Et là, il y avait une première chambre. Après, au fond, c'était une deuxième chambre. Et là, c'était le salon. Et là, la salle à manger. Du coup, là, maintenant, tout ouvert. Salon, salle à manger, cuisine ouverte. Et ici, je vais vous montrer la chambre. Chambre principale, ici. Donc, anciennement, salle à manger. Et deuxième chambre.
Juste Nicolas, c'est très mignon.
C'est pas moi qui fais la déco. Non, c'est ma copine. Ah non, mais je suis pas trop déco. Je suis là pour faire les travaux, mais après, tout ce qui est décoration, c'est soit ma mère, soit ma copine.
Et les petits doudous Non,
c'est pas moi non plus. Ah si, j'ai mon doudou. Ça, c'est mon doudou ouf ouf depuis que je suis né. Je l'ai avec moi.
Bonjour. Moi, c'est Stéphanie, la maman de Nicolas. J'ai 50 ans. J'étais pas forcément au départ contente de ce que je faisais parce que je trouvais que c'était pas très valorisant d'être hôtesse de caisse ou même travailler dans les rayons. À l'époque, je le vivais pas tellement bien et j'avais un peu peur que mes enfants soient déçus de ce que je sois, enfin de ce que je faisais. Je voulais tellement être bien aux yeux de mes enfants qu'il fallait que je fasse quelque chose pour eux de valorisant, mais bon. Et après, même à la fois, c'est un métier qui m'a apporté beaucoup parce que travailler dans le commerce, il y a aussi des clients, il y a les ressentis des gens. Et moi, j'ai besoin de ça. En fin de compte, j'avais besoin. Là, maintenant, j'ai terminé mon travail parce que ça s'est fermé. Mais en fin de compte, c'est ce manque-là que je vais avoir des personnes que je connaissais pratiquement. Tous les clientes et clients depuis tant d'années, ça faisait 30 ans que je travaillais là, je connaissais leur parcours aussi. Hein. Eux me connaissaient, mais eux se confiaient à moi aussi. Et c'est ce manque-là que je vais avoir vu que ça s'est terminé. Quoi. Alors, en fin de compte, c'est un investisseur, hein, le PDG, c'est un investisseur qui n'a pas réussi à bien gérer le groupe Casino. Et du coup, le groupe Casino a eu des difficultés. Et il n'a pas su réagir à temps et faire des bons choix pour relancer donc le commerce et il a été obligé de vendre donc le groupe et se séparer donc des gros commerces, c'est-à-dire les hypermarchés et les supermarchés. Voilà. Donc du coup, nous on est resté, comme on dit, un peu sur le carreau. Le géant de Brest, parce qu'on est dans les 20 hypermarchés qui n'ont pas trouvé de repreneur. Nous, on restait à tel endroit et on faisait sa carrière, comme on disait. Mais Nicolas, lui, ça va pas. Enfin, lui, ça ne ferait pas peur de changer. C'est plus une épreuve pour moi. Et tandis que lui, ça serait plus, au contraire, une opportunité. Voilà, je cherche le mot. Pour pouvoir faire autre chose et rebondir, parce que toi, t'aimes bien le changement, tandis que moi, j'aime moins le changement.
Est-ce que ce désir de changement est lié à une génération ou à un âge? Est-ce qu'on sait ça?
Alors, En tout cas, c'est une très bonne question, parce que quand on célèbre l'avènement de générations radicalement nouvelles, on oublie qu'il s'agit probablement d'un effet d'âge, ou en tout cas qu'il peut aussi s'agir d'un effet d'âge. Et on peut penser que cette soif de changement, cette soif de mobilité existait déjà dans les décennies précédentes. On retrouve à peu près les mêmes discours parmi les employeurs, parmi les entreprises, lorsque, en pleine période de Trente Glorieuses et de forte croissance dans les années 60 ou au début des années 70, avant le premier choc pétrolier, on a un taux de chômage quasi nul et où les entreprises, les employeurs rivalisent d'ingéniosité et se battent pour attirer les jeunes diplômés de l'époque. Donc c'est encore une fois quelque chose qui procède assez largement d'un effet d'âge. Alors, peut-être y a-t-il aussi un effet de génération. On peut penser qu'un certain nombre d'événements vont contribuer à modeler le rapport au travail. On peut penser, par exemple, beaucoup ont fait l'hypothèse que la période du Covid avait fortement modifié le rapport que l'on pouvait entretenir au travail. Mais là encore, on voit bien qu'il faut distinguer ce qui relèverait d'un effet générationnel, d'un effet d'âge et d'un effet de période, parce que la période du Covid, elle a percuté en fait le rapport au travail de toutes les classes d'âge, des moins de 25 ans certes, mais aussi des quinquagénaires. Donc tout ça est très difficile à démêler et on manque de données statistiques sur la question du rapport au travail pour précisément démêler ces effets d'âge, ces effets de période et ces effets de cohorte, comme disent les sociologues ou les démographes.
Bah, en fin de compte, mon travail me plaît, mais l'immobilier est pour moi un moyen de faire un complément de revenu, en fin de compte. Et pour dans le futur, je compte pas. J'aimerais bien ne pas travailler jusqu'à mes 60 ans, et j'aimerais aussi pouvoir partir en retraite plus tôt, du coup. Et par le biais justement de l'immobilier, le fait d'avoir plusieurs biens rentables qui pourraient remplacer mon salaire justement dans le futur. Vers les 40, 50 ans, ce serait pas mal. Je suis pas pressé non plus, mais ça c'est un peu mon objectif. Ouais. Donc j'ai encore tout devant moi à faire, parce que là le chemin, j'ai même pas fait les un quart du chemin à faire pour pouvoir bénéficier de ça plus tard.
Pourquoi est-ce que tu ne veux pas travailler jusqu'à 60 ans ?
Parce que déjà, le métier d'électricien est un métier déjà assez physique. La vie est tellement... on ne vit pas forcément longtemps, donc on a tellement de choses à faire dans la vie que pour moi, travailler jusqu'à 50 ans est déjà très suffisant, en fait. Et pour pouvoir après profiter, voyager ou faire tout ce que j'aurais pas pu faire pendant les périodes où je travaillais. Parce qu'il y a quand même, j'aimerais bien faire voir un peu tous les pays du monde et en étant en bonne santé. Et c'est pas à 60 ans, 64 ans que je me vois faire tous les pays du monde. Et surtout avec la santé d'une personne de 64 ans, on fait pas les mêmes choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'arrête. Parce qu'il y a aussi plusieurs méthodes. Il y a par exemple la bourse ou les crypto-monnaies, par exemple. Mais tous ces moyens-là, je ne me vois pas. Je ne suis pas trop dans le digital. Et je me vois pas faire ça.
Les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ou qui ont 25 ans aujourd'hui sont nés en 2000. Leurs parents sont nés probablement dans les 1970. Et ça veut dire que leurs parents ont eux-mêmes été confrontés à un taux de chômage élevé, structurellement élevé, lorsqu'ils avaient 20 ou 25 ans. De sorte que les jeunes de 25 ans aujourd'hui ne sont pas la première génération qui fait face à un risque de chômage élevé en début de vie active, mais plutôt la deuxième génération. Et ça, c'est quelque chose qui, du point de vue de la dynamique des inégalités, du point de vue de la transmission intergénérationnelle des inégalités, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte.
Comment est-ce que les jeunes observent les conditions de travail de leurs parents ?
Ce qui est certain, c'est que les jeunes ont l'exemple de leurs parents au travail. Et donc, on peut penser que leur rapport au travail se nourrit aussi de ce que ces jeunes hommes, ces jeunes femmes ont sous les yeux et de l'expérience de leurs parents. le fait que précisément ces jeunes-là ne soient pas la première génération de la crise, mais au moins la deuxième génération, cela signifie qu'ils ont vu ou qu'elles ont vu pour certains, pour certaines d'entre elles, leurs parents connaître des carrières compliquées, connaître des périodes de chômage, connaître des mauvaises expériences au travail, connaître de mauvais rapports avec la hiérarchie, être licencié de manière plus ou moins brutale à l'âge de 50 ans ou de 55 ans et peiner à retrouver un emploi. Donc, qu'on s'intéresse au rapport des jeunes au travail.
On arrive à l'espace Georges Turin nécessairement en voiture. Il faut dire qu'Arc-la-Bataille n'est pas très bien desservie en transport en commun. Pour y aller depuis Dieppe, il faut rejoindre la gare routière et espérer attraper le bus 515, dont la fréquence est toute relative. La voiture, c'est garantir sa ponctualité. Et ça permet d'avoir un peu de temps avant de retrouver les jeunes du centre social. On grimpe au château, un vrai château fort. D'ici, on voit toute la vallée, notamment l'usine alpine, emblématique de la région. Et ce qu'il y a à défendre. L'insertion des jeunes, l'emploi, le lien social. Plus besoin de pont-levis, donjons ou douves, mais d'une politique sociale solide pour ce territoire rural. Karina Bellassène, le genre de personne qui a le social chevillé au corps, c'est elle qui nous a présenté Maëva, Audric et Loana. Ils ne se connaissent pas. Maëva fréquente le lieu car elle y amène ses filles régulièrement. Audric y est venu plus jeune et Loana était animatrice du centre de loisirs. Mais ils connectent rapidement.
Pour l'instant, la grande, oh là là, un bassin avec saladeur.
Petite pizza, ça vous tente ?
Oui,
nickel. Ouais. Et donc, qu'est-ce
que... En général, tous les jeunes, ils aiment les pizzas. On n'est pas dans le temps d'avant, c'était les choux-fleurs avant, mais là, les pizzas, ça passe bien.
Vas-y, dis-nous ce que...
Bah après, il y a un peu... Il y a beaucoup de choix, quand même. Il y en a 35. Ça okay. va être long, un peu.
Ok.
Après, c'est plus basse tomate, basse crème que vous préférez ? Fromage, pas fromage ?
Moi, plus basse tomate, je pense.
Allergie, pas allergie ?
Pas d'allergie non plus.
Basse tomate ?
Ouais, je pense plutôt...
T'as le droit de choisir, hein.
Moi, basse crème.
Toi, basse crème. Ok. Eh bien, on peut faire deux basse crème et... Après, deux basse crème et trois basse tomates.
Vous connaissez un peu les pizzas d'ici, non?
Non, pas trop,
non. Vous voulez pas que je vous le passe?
Oui, si. Allez. Hop. Toi, tu sais ce que tu prends?
Non, mais moi, je m'adapte. Hein.
Alors, choisis une pizza. Chacun choisit une pizza. Comme ouais. ça, on va faire comme au resto.
Ouais, j'aime un peu tout. Moi, je prends la pizza du chef.
Moi, la Regina. Ouais. Tu vois quoi, il y a une Regina.
Ça veut dire d'accord.
Ouais, voilà, c'est ça.
Alors, mon parcours est un peu compliqué. J'ai commencé la coiffure en 2015, donc j'avais 15 ans.
Maëva.
J'ai arrêté en 2016 parce que je suis tombée malade et je me suis aperçue que j'étais pas déclarée. Donc c'était un peu compliqué. Donc après, suite à ça, j'ai abandonné. Et du coup, après, j'ai fait un peu d'usine, un peu partout dans Dieppe. Et après, j'ai repris la coiffure il y a 3 ans, je dirais. Puis entre deux, j'ai eu mes enfants aussi. J'ai dû suivre juste une formation à distance à la maison pendant 1 an. Bon, j'avoue que quand on est jeune maman et qu'on vient d'accoucher et qu'on doit suivre des cours à la maison sur le PC, c'est un peu compliqué. Entre jongler les biberons et les feuilles enfin les devoirs, c'est un peu compliqué. Mais bon, après, quand on veut, on peut, hein, dans la vie. Et puis, j'ai réussi et là, du coup, j'en suis là, je suis en CDI. Et j'espère plus tard, soit avoir mon salon ou faire du domicile. C'est vraiment dans mes projets aussi.
Je suis actuellement en formation d'anglais parce que j'aimerais faire fille au pair aux États-Unis. Et en fait, je veux partir là-bas en ayant un minimum de base.
Loana.
Parce que sinon, j'ai un niveau médiocre. C'est en fait, de base, je voulais partir faire une année d'échange quand j'étais au lycée. J'ai travaillé pour ça, mais c'est très cher. Du coup, j'avais abandonné un petit peu l'idée. Et j'ai fait hashtag avenir, une formation pour savoir ce qu'on veut faire parce que je suis perdue dans ma vie. Et j'ai fait 2 stages d'assistant de direction. Et en fait, mes 2 tutrices, ils avaient fait ça. Et je me suis dit, bah, c'est le destin. Je me suis renseignée. Puis ça fait quelques mois que je travaille sur le projet pour partir. J'ai travaillé en usine pendant 2 ans et demi, 3 ans. Après, j'ai fait cet été un mois avec... comment je pourrais dire ça, j'étais avec des personnes en situation de handicap et ils étaient en séjour. Et j'étais là-bas en tant qu'animatrice. Et bah, là, et du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai fait aussi un stage pour le BAFA à l'EGT de Arc. Et après, c'était plein de petits boulots à l'usine et tout.
Ce serait quoi les conditions de travail de vos rêves Est-ce que tu rêves, toi, Loana, est-ce que tu rêves à un truc en particulier, tu vois, est-ce que tu rêves de télétravail? Est-ce que tu rêves de CDI, d'être freelance? À quoi tu rêves, quoi?
Moi, découvrir le monde, bouger, pas faire tout le temps la même chose. En ayant fait 3 ans d'usine, je sais qu'un truc répétitif, c'est pas pour moi. Après, ceux de mon équipe, bah, ça se voit qu'ils en ont chié pour toute leur vie, quoi. Et puis qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont mal partout. Ils sont pas reconnus pour le travail qu'ils font. Même niveau salaire, pour le travail qu'ils font, je trouve que c'est pas cher payé. Même les personnes dans le social, c'est pareil. Et bah, je pense que eux, les anciens, ils savent que les jeunes, ils resteront pas en usine. Puis même, ils leur souhaitent de partir. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis partie. On m'a dit, t'as raison. Pars d'ici, reste pas là, fais autre chose de ta vie. Donc, ouais, je pense qu'ils savent que la future génération, c'est pas la même, quoi. Ouais, mon père est ouvrier depuis plus de 30 ans, et puis à l'heure d'aujourd'hui, pour le remerciement qu'ils en ont eu, je trouve que ouais, c'est énorme quand même. Ouais, puis même comment ils m'en parlent, les chefs, ils les respectent pas plus que ça. Alors, comment on appelle ça ceux qui les défendent au boulot.
Les syndicats.
Ouais, les syndicats. Moi, mon père, il me dit syndicats, c'est de la merde. Ils défendent personne, en fait. Ils sont là pour les heures ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ils défendent personne. Là, l'usine à mon père, bon, je citerai pas le nom parce que voilà. Mais je sais qu'en ce moment, ça va pas. Et puis que les syndicats, ils font absolument rien. Donc, s'ils sont pas défendus... C'est chaud, je trouve. Que, en fait, au final, tu peux être défendu par personne, alors que de base, c'est leur métier. Enfin, ils sont là pour ça, quoi.
Est-ce que vous êtes syndiqué?
Non. Moi, non.
C'est-à-dire quoi, ça, syndiqué? C'est-à-dire à faire partie d'un syndicat?
Ouais.
Ah non.
Comment est-ce que vous faites pour défendre vos droits en tant que travailleur?
Ben moi, justement, je trouve que c'est compliqué. Parce que quand on arrive dans une entreprise ou un établissement ou quoi, en fait, est-ce qu'on connaît vraiment tout ce qu'on a à connaître? Moi, je sais que... Enfin, j'en apprends tous les jours, hein, clairement, sur mes droits au travail. Enfin, c'est pas des choses qu'on nous explique, en fait. On a l'impression qu'on arrive, on doit déjà tout connaître et tout savoir sur tout. Et, enfin, il y a plein de choses. Des fois, je suis en mode, mais... Aidez-moi, enfin, je suis un nouveau travailleur, je connais pas, je sais pas, et... Et en fait, ouais, non, franchement, c'est compliqué, je trouve, hein, les droits au travail et tout. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big, you feel nothing at all. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When
they tortured and scared you for 20-odd years.
On est une génération qui refuse de sacrifier notre santé mentale au travail. On ne se dépouillera pas clairement au travail. Après, moi, je sais que j'ai très longtemps accepté beaucoup de choses. Et, enfin, en fait, je pense aussi que c'est du fait que je travaille dans le social avec des enfants qui sont dans le besoin, qui ont des besoins très particuliers. En fait, c'est dur de refuser certaines choses. Ou, enfin, de dire, par exemple, on ne peut pas... Si on finit à 22h, qu'il y a un enfant qui a une crise ou qu'on se dit pas « Ah, il est 22h, je m'en vais ». En fait, c'est pas possible. Tu peux pas partir comme ça, laisser l'enfant en crise avec un seul collègue qui s'en occupe. C'est pas possible. C'est de l'éthique. Enfin, c'est une question de principe, c'est une question de logique. Tu restes, en fait. C'est pas « Allez, 22h, je te laisse tout seul avec l'enfant. Voilà, et puis basta, quoi. » Donc, voilà, c'est... Faut pas non plus tout accepter, mais en fait, c'est un juste milieu à trouver. Faut pas mettre les autres en difficulté, mais faut pas non plus se donner jusqu'à en perdre son âme. Enfin, voilà. Il faut penser aussi à sa vie perso, et je trouve que parfois, on a tendance à s'oublier. Franchement, des fois, on voit que travail, et il n'y a pas que ça. Il y a la famille, il y a les amis, et il faut en profiter, parce que sinon, on n'a que la tête là-dedans et on ne s'en sort pas. Surtout dans le... Enfin, moi, dans le social, en tout cas, je sais que parfois, le soir, on rentre chez nous, on pense à la situation des enfants, on se dit « Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire comme ça? Est-ce que là, j'ai pas merdé? Est-ce que là, j'ai... » Et en fait, si t'es comme ça toute la soirée, tu profites plus de ta soirée, il faut que tu t'ouvres ton ordi, tu regardes une série, un film, tu te détends, tu te fais un... Je sais pas, tu te fais couler un bain, tu fais un truc, mais faut déconnecter, quoi. Et après, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Mon travail idéal, parce que je suis quelqu'un qui est capable vraiment de s'investir corps et âme,
Louvre.
C'est un travail qui reste au travail et que je ramène pas à la maison avec moi, justement. Même s'il peut y avoir ces notions maintenant de télétravail, de bosser depuis chez soi et tout. Je veux que ce soit quelque chose qui me permette d'être épanouie et de vraiment me donner à fond et d'être là d'un point de vue humain et intellectuel et d'apporter quelque chose. Mais je veux que ce soit quelque chose auquel j'ai pas besoin de repenser le soir une fois que je suis chez moi. Je pense que c'est pas mal d'avoir un peu cette fracture-là quand t'es chez toi dans ton cocon et quand t'es au boulot et de séparer ce truc-là. J'aimerais bien un CDI, rester dans la même entreprise longtemps, d'avoir une certaine forme de stabilité et de pas avoir justement ce stress ou cette prise de tête de « Ah oui, mais j'ai envie de changer et j'ai envie de faire ça. » Moi, je me vois bien faire la même chose pendant longtemps sans aucun problème.
Et bosser à la maison ou bien...
Voilà, ouais. Et alors, je pense qu'un mix des deux, c'est bien. Moi, je trouve qu'un équilibre, c'est pas mal. Voir ses collègues de temps en temps, être en face à face avec les gens avec qui on travaille, je pense que c'est important et qu'il faut pas complètement couper ce lien-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire depuis chez soi aussi et qui permettent de s'épargner la fatigue, par exemple, des transports en commun. Moi, je pense qu'il faut un équilibre entre les deux et que 2 à 3 jours de télétravail par semaine, c'est l'idéal. Ça permet de garder le contact tout en s'économisant.
On voit émerger cette tentation de tenir à distance la vie professionnelle et à éviter qu'elle ne déborde trop parmi précisément les jeunes qui ont vu leurs parents connaître des difficultés dans le monde du travail. Je me souviens d'un entretien que j'avais fait pendant ma thèse assez marquant avec un jeune qui devait avoir 27 ou 28 ans et qui avait vu ses parents tout donner à leur travail, pour reprendre ses termes, en sacrifiant une partie du temps qu'ils auraient pu passer avec leurs enfants, en sacrifiant une partie de leurs loisirs, en étant d'astreinte le week-end, en faisant des heures supplémentaires, en étant toujours volontaire lorsque des tâches nouvelles étaient à effectuer. Et ses deux parents s'étaient fait licencier à peine plus de 50 ans et n'avaient jamais retrouvé d'emploi, ou en tout cas d'emploi à hauteur de leur qualification. Et donc ce jeune était très marqué par cette expérience et exprimait vraiment la volonté de, dès le début, marquer une étanchéité relative, hein, puisque entre l'intention et la réalité, il y a toujours un décalage, mais en tout cas la volonté de se protéger d'un travail qui déborderait trop. Et donc l'expérience vécue par les parents, en ce sens, est très importante. Et puis là encore, je pense que les jeunes sont attentifs à cette question, peut-être un petit peu plus que le reste de la société. Mais on voit que cette conscience que le travail, bien sûr, demeure très important, bien sûr, demeure potentiellement tout à fait épanouissant. Mais je pense que cette attention à ne pas se laisser, autant que possible, déborder par le travail, c'est quelque chose qui est présent au sein de l'ensemble de la société et pas seulement parmi les jeunes, même si, encore une fois, les jeunes, comme c'est une génération qui advient, sont peut-être plus sensibles à cette question que le reste de la société.
Chacun a la possibilité de pratiquer la gymnastique de pause qui fait travailler les muscles non sollicités par l'activité professionnelle. Certaines administrations la pratiquent quotidiennement. Tous ces exercices concourent efficacement à éliminer la fatigue et la productivité s'en est trouvée sensiblement améliorée.
Des distributeurs automatiques ont fait leur apparition. Un bouton à tourner et la machine débite un gobelet et la boisson désirée, chaude ou froide. C'est du même coup l'occasion d'une courte détente. Musique douce et verre en main, on nous fera bientôt admettre que le travail est un plaisir.
Archivina, 1959.
On parle en fait de développement personnel à des fins purement utilitaristes. Où ton employeur va te dire qu'il a envie que tu te sentes bien, alors qu'en fait, il a juste envie que tu te sentes bien pour que tu sois efficace. Moi, j'en parle énormément aussi de comment je me sens, de ma vie, de mes états d'âme. Mais je le fais avec mon cercle proche, mes amis, dans la coloc, de fou. Par contre, quand dans mon ancienne entreprise, on me demandait « Comment tu te sens ? On peut en parler ? On fait un point ?» En fait, c'est, je pense que la santé mentale aussi, ouais, est beaucoup reprise à des fins, ouais, utilitaristes pour que l'individu se sente bien et soit ensuite efficace dans une société qui t'exploite, quoi.
On peut faire l'hypothèse, bien sûr, que être projeté dans un monde du travail incertain, dans lequel il faut anticiper un certain nombre de changements, une alternance d'emplois, de séquences courtes, évidemment, ça a un impact sur la capacité à se projeter sereinement dans l'avenir, en termes de santé mentale, de stress, d'angoisse, de difficultés. C'est un facteur ou une illustration des inégalités entre les classes d'âge et entre les groupes sociaux aujourd'hui. Pour pouvoir se projeter sereinement dans l'avenir, il faut être un minimum assuré de sa situation. C'est ce qui sépare finalement en grande partie la société française d'aujourd'hui de la société française d'il y a 30 ou 40 ans. C'est-à-dire que un jeune qui avait 20 ans dans les années 60, c'est un jeune qui naît dans un pays dans lequel chaque année on crée 4 ou 5% de richesse de plus que l'année précédente. Et donc la croissance, elle intéresse beaucoup les économistes parce que ça permet de redistribuer les richesses, même inéquitablement, mais elle a aussi un rôle très important, subjectif, du point de vue de la capacité des individus à se projeter positivement dans l'avenir et à anticiper une amélioration de leur situation, une mobilité en cours de carrière. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de se projeter sereinement dans l'avenir, et a fortiori pour les jeunes qui sont ceux qu'on pourrait appeler, ou celles qu'on pourrait appeler, les vaincus de la compétition scolaire et qui sont confrontés à une précarisation croissante de l'emploi.
Encore assez flou, mais j'aimerais travailler dans les relations internationales, mais j'ai pas encore d'idée précise en réalité. Et je voulais être prof, parce que j'aime trop les enfants, j'ai le BAFA et tout, j'aime trop les enfants, enseigner, etc. Mais en fait, on n'est pas assez bien payé, je trouve. Et je suis désolée, je vais être honnête, hein, mais quand tu vois que tes parents, ils ont un peu galéré économiquement, je me dis que j'ai pas forcément envie de faire galérer mes... Enfin, de galérer comme eux et d'offrir une stabilité économique à mes enfants. Voilà, donc voilà. Parce que, en fait, avant ça aussi, je voulais travailler dans l'humanitaire. Et je me suis rendu compte que, pareil, t'étais payé 1008 au début. Donc j'ai dit, franchement, c'est pas beaucoup, quoi. Enfin, pour un bac plus 5 et tout, je me suis dit, franchement, je ferais de l'humanitaire. Je pense que je ferais de l'humanitaire, mais à côté. Ce sera pas mon métier principal, mais j'en ferais. Je pense que, moi, si je commence à 3000. Je suis contente. Après, dans le pays, je suis assez ouverte, moi. Vraiment, je suis assez ouverte. Ça me dérangerait pas de partir, genre, je sais pas, moi, 5 ans au Pérou, 5 ans en Colombie. Enfin, voilà. Je me vois vraiment bouger. Par contre, j'ai déjà un peu réfléchi. Je me suis fait un peu ma vie dans ma tête. En gros, j'ai un contrat de 3 ans, je sais pas, au Pérou. je sais pas pourquoi, j'ai quoi avec le Pérou, mais bref, j'ai rencontré 3 ans au Pérou. Et donc je vais 3 ans au Pérou, je finis mon contrat et on me dit bon bah t'as un autre contrat, je sais pas, au Brésil. Tu vois, et donc je vais au Brésil, c'est avec ma petite famille, mes enfants, etc. Tu vois. Après, je sais pas si ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie. Je me suis pas encore renseignée, pour être honnête. On a le droit de rêver.
Alors, je m'appelle Eline et j'ai 10 ans. Mon rêve, c'est de devenir actrice, figurer, apprendre un rôle, être un nouveau personnage, avoir une nouvelle peau. Et dans les films, mon nom sera affiché en premier. Comme ça, tout le monde me connaîtra. Mon rêve, c'est aussi de réussir, pas rater ma vie et de me dire pourquoi je me suis lancée dans ça, j'aurais préféré être ça. Des fois, on vit pas la vie qu'on a envie de vivre parce qu'on a envie de plaire à tout le monde.
Mon rêve, c'est d'être footballeuse. Ça va être compliqué quand même. Je dois avoir deux métiers, quoi. Parce qu'il n'y a pas... Alors, en féminin, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, ça paye pas. Enfin, pas assez, en tout cas, pour bien vivre. T'es obligé d'avoir deux travails. Et ça, c'est pas fou.
Moi, j'aimerais bien être danseuse professionnelle. Voilà. Puisque quand je le fais, bah, je me sens bien et puis je m'amuse. Je me sens confiante. Enfin, voilà.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réalisé leurs rêves parce que le monde peut être trop méchant.
Extrait du documentaire d'Élise Andrieux. Mon rêve d'enfant.
Je trouve que c'est compliqué le monde du travail. J'aimerais bien être à mon compte. Je trouve que c'est trop compliqué d'avoir une personne au-dessus de moi. Mais après, ça, c'est juste mon avis à moi.
C'est-à-dire
trop de contraintes, trop de... donner des ordres, jamais être satisfait. Il faut être toujours souriante, il faut être toujours debout. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui est dur dans le boulot. En soi, c'est, enfin, vu que c'est un boulot que j'aime, c'est pas dur, c'est pas une corvée, on va dire. Donc, ça me dérange pas. Du coup, j'en suis là, je suis en CDI, et j'espère plus tard soit avoir mon salon ou faire du domicile. C'est vraiment dans mes projets aussi. I've been working for the weekend, but that weekend never came. Will you pat my back tomorrow if I break my back today? Yeah, it's 7 a.m. and I can't seem to keep my eyes shut. Even if I get up, even if I get beat down, will I be fine? Nah, 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 nah. If I do my time, nah, 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 nah. I guess I sleep when I'm dead. I've been working for the weekend, but that weekend never came.
Merci à Aïna, Sarah, Mariam, Safia, Iliès, Léo, Massimo, Mathis, Andrea, Loua, Elisa, Agathe, Sofiane, Lila, Audric, Maeva, Loana et Louve. Et le premier bébé de l'an 2000, Nicolas. Merci à Camille Penny, sociologue. Merci à Judith Meyer, enseignante en sciences de l'information et de la communication à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, ainsi qu'à Karina Bellassen, directrice de l'espace Georges Turin d'Arc la Bataille. Lecture, Daniel Koenigsberg. Prise de son, Hélène Langlois, Laurent César, Stéphane Foulon, Hervé Dubreuil. Mixage, Manon Houssin. Archivina, Delphine André. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Les enfants du nouveau millénaire, 3e épisode, Travaillez quand même. Un documentaire de Léa Capuano, réalisé par Rafik Zénine. Will you pat my back tomorrow if I break my back today? I've been working for the weekend, but that weekend never